Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma à la présentation.
Lutte contre le poliovirus variant. C'est aujourd'hui que démarre la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en RDC en 2025. Près de 11 millions d'enfants de moins de 5 ans y sont attendus. Pour en parler, nous recevons la coordonnatrice du comité des opérations d'urgence polio en République démocratique du Congo. Nous sommes à une semaine de la tenue de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. L'inspecteur général à l'éducation nationale attire l'attention des directeurs, chefs de service et les délégations syndicales sur les principes directeurs de la bonne organisation de cette épreuve certificative. Vous entendrez Hubert Kimbonza. Et puis, une délégation du groupe de coordination des partenaires séjourne à Kisangani depuis mardi. C'est pour une mission de terrain de 5 jours. Objectif, saisir les opportunités et relever les défis du couloir vert, soit Kisangani, Yangambi et environ. Madame, Messieurs, bonjour. Près de 11 millions d'enfants sont attendus pour la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en République démocratique du Congo en cette année 2025. Du 26 au 28 juin en cours, les enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés dans les provinces de Kinshasa, Tanganyika, Olomami, au Congo central et au Katanga. Durant la même période, les enfants de 0 à 15 ans seront vaccinés contre la polio dans les provinces de la Tchopo et le Maniema. Docteur Elisabeth Mukamba, coordonnatrice du comité des opérations d'urgence polio en RDC, appelle les parents à se mobiliser, quelle que soit leur occupation, pour faire vacciner leurs enfants. Docteur Elisabeth Mukamba est au micro de Kelvin Baini.
Le poliovirus variant circule encore. Et quand il y a des poches insuffisamment vaccinées, fort malheureusement, ces enfants sont atteints, le virus se développe et le virus paralyse les enfants. Donc, nous avons des efforts communs à faire. Vacciner un enfant avec une bonne immunité protège aussi les autres enfants. Donc, c'est inviter la communauté à ne pas se fatiguer. Nous sommes vraiment à quelques doigts d'atteindre l'objectif d'arrêt de la circulation du poliovirus pour prétendre à l'arrêt, à l'éradication de la poliomyélite. Donc, nous invitons vraiment toutes les communautés, quelle que soit leur occupation, leur rang, à adhérer ou à faire vacciner ces enfants. Protéger un enfant, c'est protéger tous les enfants.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, nous sommes à une semaine de la tenue de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. L'inspecteur général à l'éducation nationale bat déjà le rappel des troupes. Hubert Kimbonza sensibilise les directeurs chefs des services et les délégations syndicales sur les principes directeurs de la bonne organisation de cette épreuve certificative. Il insiste sur la gratuité de cet examen, quel que soit le type de gestion de l'école qui accueille des candidats finalistes du cycle primaire. On écoute Hubert Kimbonza dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
On a dit à tout le monde qu'il faut bannir certaines pratiques qui constituent des antivaleurs. Sur terrain, des chefs d'établissement qui demandent de l'argent, que les superviseurs nous fassent rapport pour que nous puissions voir comment sanctionner ces gens. L'enseignement primaire, public et gratuit, et j'insiste, les évaluations sont gratuites pour tout enfant congolais, peu importe les types de gestion de leur école. Que ce soit une école privée agréée Talanamiso, que ce soit une école privée agréée Tolinganaka, partout, l'enfant congolais qui étudie dans ces écoles ne peut payer aucun rond pour participer aux évaluations certificatives, pour participer à l'ENAFEP. Enfin, nous avons évoqué aussi la situation de l'Est, pour dire que les enfants qui sont dans la partie occupée sont nos enfants. L'unité nationale doit être sauvegardée. Nous avons aussi parlé des problèmes de bulletins, pour dire que ce n'est pas une première fois que l'on utilise le brouillon parce que les titulaires seront appelés aussi à transcrire cela de manière fidèle et correcte dès que les bulletins carton sont disponibles.
L'inspecteur général à l'éducation nationale rassure par ailleurs que l'État congolais s'active à payer les enseignants travaillant dans les zones sous occupation rebelle. Entre-temps, au Nord Kivu, l'année scolaire 2024-2025 s'est clôture avec beaucoup de peine, tant dans les écoles publiques que privées, dans les entités occupées par la rébellion, à l'instar des villes de Goma et Bukavu. Certains experts de l'éducation justifient cette situation par deux facteurs, à savoir une déperdition d'élèves estimée à 30, 40, voire 50% enregistrée dans certaines écoles à la suite du déplacement des parents et par la crise financière qui secoue les zones occupées. Famagourou nous en dit plus.
La situation sécuritaire a sérieusement impacté les activités scolaires, laissant des conséquences tant sur le plan moral des enfants, leur formation, que sur les résultats. Certains responsables expliquent que dans les secteurs publics, par exemple, les enfants n'ont presque pas étudié à cause de tous ces défis. Plusieurs écoles publiques peinent à achever le programme national à cause des grèves, de l'insécurité et du retard de paiement des salaires des enseignants. Les enfants traversent de conditions sociales très difficile, le stress et tout cela affecte négativement leur performance, explique Théo Tiraba, responsable d'une école privée à Goma. Les écoles privées également ont connu des difficultés à cause du non-paiement des frais scolaires par les parents.
Les élèves, surtout dans le secteur public, n'ont pas vraiment reçu tout ce qu'il fallait pour cette année scolaire. Parce que récupérer tous ces jours perdus pendant la grève des enseignants, de la guerre, des affrontements dans la ville, les établissements scolaires à tous les niveaux ont eu des difficultés énormes pour accéder aux frais de fonctionnement de leurs établissements scolaires.
Par ailleurs, à Beni, le coordonnateur provincial du projet Star Est dresse un premier bilan d'étape, soulignant que la lenteur dans l'exécution des infrastructures scolaires, administratives et routières est principalement due à l'insécurité persistante dans la région. Lancé en avril 2024 pour une durée de 5 ans, ce programme vise la stabilisation communautaire, la gouvernance locale, la prévention des violences basées sur le genre et l'autonomisation des femmes. Malgré les défis, certaines écoles seront prêtes à accueillir les élèves dès la rentrée prochaine. Jean-Claude Kassomo appelle à une implication collective pour améliorer les conditions sécuritaires et garantir la réussite des projets. Le coordonnateur provincial du projet Star Est est au micro de Marc Marofimbo.
J'avais demandé à l'entrepreneur de voir dans quelle mesure il peut faire pour que, à la rentrée, les enfants puissent occuper ces infrastructures. Bon, à l'allure où les choses évoluent, je pense qu'il y a quand même espoir. Même si ça ne sera pas possible partout, mais on espère quand même avoir 2 ou 3 qui seront achevés déjà d'ici septembre pour que les enfants étudient dans les meilleures conditions. C'est ici l'occasion de réitérer encore ces vœux-là, l'implication de toutes les autorités politico-administratives, les membres de la société civile, la population en général, que nous puissions travailler ensemble là où il y a des inquiétudes, comment nous pouvons les faire pour améliorer, des suggestions qui peuvent faire en sorte que nos interventions soient améliorées. Nous aurions déjà fait mieux en peu de temps si les conditions sécuritaires étaient bonnes. Mais nous espérons que d'ici là, les conditions sécuritaires vont s'améliorer et ça va vraiment nous permettre à ce moment-là d'aller de l'avant et de faire mieux. Nous rassurons la population que plus les conditions sécuritaires seront meilleures, plus nous allons intervenir à leur grande satisfaction.
L'actualité, c'est aussi la poursuite de la mission humanitaire du coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher. Après avoir rencontré lundi la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Gaïkwamba-Wagner, et des fonctionnaires à Kinshasa, Tom Fletcher se trouve maintenant dans l'est du pays. Il s'est rendu mardi à Minova et Sacha, dans la province du Sud Kivu, où il a visité des projets d'approvisionnement en eau, une clinique mobile, ainsi qu'un centre d'accueil pour femmes rapatriés. Ces initiatives visent à soutenir les communautés touchées par les conflits et les déplacements. À Goma, au Nord Kivu, il a échangé avec les partenaires humanitaires sur les besoins les plus urgents, signalant que plus de 20 millions de personnes nécessitent actuellement une aide dans l'est du pays, dans un contexte de financement encore insuffisant. Une délégation composée d'acteurs des mouvements citoyens, d'organisations des jeunes et des responsables des confessions religieuses a été reçue hier par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, à Mbobero. Nous sommes dans le territoire de Kabare et au sud Kivu. Selon des sources sur place, ces consultations sont une occasion pour Joseph Kabila d'exprimer sa compassion envers les habitants du sud Kivu, meurtris par les conséquences de la guerre dans l'est du pays. Amos Bissimwa, l'un des membres de la délégation des mouvements citoyens, reçut reçus dans le cadre de ces consultations affirment avoir rencontré un ancien président animé par la volonté de contribuer au retour de la paix. Il est joint par Ronéline Tibonera.
Il nous a dit qu'il est venu pour conscientiser tout le monde, afin que chacun puisse donner sa contribution pour la paix. Il a dit qu'il est en train de faire sa part en sensibilisant les différentes couches de la population, surtout les leaders, pour qu'eux aussi à leur tour aillent sensibiliser toute la population jusqu'au fin fond, en disant à la population que notre pays est en train de faire la honte aujourd'hui par rapport à la situation qu'il traverse dans tous les domaines, surtout sur le plan sécurité, et que lui voulait donner sa part et démontrer qu'il est à qu'on fasse la paix. Il a dit qu'il est prêt pour le dialogue. Et c'est à ce stade qu'il a appuyé le chemin de la CENCO et de l'ECC. Il nous a dit que nous qui étions là, tout le monde qui détient les numéros de nos autorités au niveau national, il doit les appeler, leur dire qu'il est temps que le peuple congolais, surtout leurs leaders, se mettent autour d'une table pour discuter de nos questions internes.
Par ailleurs, les chefs traditionnels et responsables des communautés souhaitent être impliqués dans tous les processus visant le retour de la paix dans l'est de la RDC. Dans une déclaration rendue publique mardi à Kinshasa, ces autorités coutumières affirment être en mesure d'apporter une contribution sur les questions et causes profondes de la crise sécuritaire qui se répète dans l'est du pays. Au cours d'une réunion d'évaluation de la situation dans les zones occupées, ces représentants des communautés ont à nouveau condamné les tueries, les attaques et les affrontements qui continuent d'être perpétrés dans différentes entités au sud et au nord Kivu. Pendant ce temps, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu hier mercredi à la Cité de l'Union africaine avec l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'un des facilitateurs désignés par la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour contribuer à trouver des solutions aux conflits armés qui secouent l'Est de la RDC. À l'issue de cet échange qui a duré près de 2 heures, l'hôte du chef de l'État qui est revenait du Rwanda a précisé l'objet de son déplacement dans les deux pays, je le cite. Nous explorons toutes les possibilités sur la situation entre le Rwanda et la RDC pour qu'il n'y ait plus de confrontations militaires et de violences. Les discussions que j'ai eues avec mes deux frères du Rwanda et de la RDC sont sur le bon chemin. Fin de citation. Rendons-nous dans la province de la Tchopo. Une délégation du groupe de coordination des partenaires séjourne à Kisangani depuis mardi pour une mission de terrain. Cette mission de 5 jours porte sur le thème de renforcement des capacités de la province de la Tchopo dans les zones de Kisangani, Yangambi et environ. Objectif, saisir les opportunités et relever les défis du couloir vert. Jacques Moukonkole, reportage.
Cette délégation est composée des chefs de coopération des ambassades et des chefs d'agences de développement et coordonnateurs résidents, des chefs des agences du système des Nations Unies, ainsi que des représentants du gouvernement central et provincial. Le représentant de CAFI, l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, fait également partie de cette délégation. Mardi, ils ont présenté les civilités au gouverneur des provinces, Paulin Lendengolia Lebabonga. Une occasion pour leur chef de décliner l'objet de leur mission. Dans ce cadre, ils vont visiter des projets en lien direct et indirect avec le couloir vert. Ces visites vont permettre de formuler des recommandations concrètes en vue d'orienter les prochaines étapes du processus et favoriser l'engagement des bailleurs autour des priorités identifiées. Ainsi, ils se sont rendus à Madoula dans les environs de Kisangani. Ils sont attendus mercredi soir à Yangambi où ils vont séjourner jusqu'à jeudi. Ici, ils vont entreprendre plusieurs visites, notamment à l'INERA, à l'IFA Yangambi, au CIFOR, à la Tour Aflu, ainsi que des activités appuyées par l'UNESCO. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
La République démocratique du Congo franchit un cap dans sa transition numérique. Un accord a été signé avec Trident Digital Tech, une entreprise technologique basée à Singapour pour la mise en place d'un système national d'identité numérique et d'administration en ligne. Explication Jocelyne Moussaoponde.
Trident est une société cotée au Nasdaq, l'un des principaux marchés boursiers mondiaux dédiés aux entreprises technologiques. L'entreprise va collaborer avec le ministère congolais des postes, télécommunications et du numérique. Objectif, permettre aux citoyens congolais d'accéder de façon sécurisée aux services gouvernementaux à travers une plateforme baptisée DRC Pass. Le système couvrira l'enregistrement des cartes SIM, l'accès aux portails administratifs et commerciaux, les paiements numériques et la gestion de l'identité en ligne. Pour le ministre Augustin Kibasa Maliba, ce partenariat permettra à la RDC de devenir, je cite, numériquement souveraine, financièrement inclusive et résiliente face aux défis de demain. Le montant du contrat n'a pas été révélé.
Actualité internationale.
Des milliers de Kenyans sont descendus hier dans la rue pour commémorer le premier anniversaire des manifestations de l'année dernière contre la loi des finances qui avait entraîné la mort d'au moins 60 personnes. Bravant l'interdiction décrétée par les autorités, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre les protestataires alors que les routes menant au Parlement et à la présidence ont été barricadées.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons la coordonnatrice du comité des opérations d'urgence polio en RDC. Elle nous parle des préparatifs de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue du 26 au 28 juin et du 26 au 30 juin dans 7 provinces du pays. Docteur Elisabeth Mukamba est avec Kelvin Baini.
Docteur Mukamba Musenga Elisabeth, bonjour.
Bonjour.
La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite est annoncée pour les 26, les 27, voire le 30 juin 2025. Quelles sont les provinces concernées et pourquoi ont-elles été choisies pour cette phase?
Merci. La campagne que nous organisons aux dates que vous avez citées cible 7 provinces et ces provinces sont reparties en 2 groupes. Vous avez 5 provinces où le vaccin contre la polio, donc le VPO bivalent, sera administré aux enfants de 0 à 59 mois. Et nous avons 2 provinces, Tshopo et Maniema, où on va vacciner les enfants jusqu'à 14 ans révolus. Cela se justifie notamment par la confirmation des cas de poliomyélite variant dans les provinces citées. Pour le premier groupe, pour les 0 à 59 mois, il s'agit de la province de Kinshasa, où toutes les zones de santé vont être ciblées, le Tanganyika, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Congo central. Ce sont les 5 provinces qui vont aller pour la tranche d'âge des 0 à 59 mois. Et pour la province de la Tshopo et du Maniema, où nous allons vacciner jusqu'à 15 ans, c'est parce que aussi il y a eu une confirmation d'un cas de polio. C'était l'année dernière chez un enfant qui avait au-delà de 10 ans. Et selon les procédures opératoires standardisées, il faut que les réponses à ces épidémies puissent nous garantir qu'on va arrêter la circulation du poliovirus. C'est ce qui justifie que, voilà, nous allons organiser ces campagnes en 2 phases. Et c'est ce qui justifie tout justement aussi la durée. Quand nous vaccinons les enfants de 0 à 59 mois, généralement on le fait dans les 3 jours avec quelques jours de ratissage pour récupérer tous les enfants qui auraient échappé. Mais lorsque nous allons jusqu'à 14 ans révolus, donc les moins de 15 ans, nous prenons 5 jours. La cible étant plus grande, elle représente environ 48% de la population totale. Donc ça nécessite un peu plus de jours pour arriver à mieux vacciner les enfants.
Docteur, pouvez-vous nous préciser combien d'enfants sont attendus pour cette campagne de vaccination?
En fait, pour cette campagne, nous attendons un peu plus de 10 700 000 enfants. Environ 8 200 000, ce sont les enfants de 0 à 59 mois. Et un peu plus de 2 800 000, ce sont les enfants de 0 à 14 ans révolus qui sont attendus selon les blocs de province.
Alors, quelle stratégie avez-vous mise en place pour garantir l'accès à la vaccination durant cette phase, notamment dans les zones rurales ou difficiles d'accès?
Le travail se fait en collaboration avec les équipes des provinces, les équipes des zones de santé et même avec les équipes de village. Et la stratégie pour les vaccinations contre la polio, c'est vraiment que des équipes sont déployées pour aller vacciner dans les ménages. Ce ne sont pas les communautés ou les parents d'enfants qui amènent les enfants au centre, mais on passe de village en village.
Quel message souhaitez-vous lancer à la population à la veille de la mise en œuvre de cette deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite?
Nous voulons déjà ici apprécier et remercier tous ces parents qui, en acceptant de faire vacciner leurs enfants, ont contribué énormément à la réduction du nombre des cas de polio. Pour rappel, en 2022, le pays comptait 539 cas de poliomyélite, c'est-à-dire des enfants qui ont été paralysés parce qu'ils ont eu à contracter le poliovirus variant qui a paralysé les enfants à vie. Mais avec tous les efforts, toute la sensibilisation à la communication qui entourait. Plusieurs parents ont fait vacciner leurs enfants, réduisant les enfants qui ont eu une faible immunité du fait de la non-vaccination. Et nous sommes heureux déjà de noter qu'en 2025, depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, nous n'avons notifié que 2 cas de poliovirus. Un, dans l'environnement, c'était ici à Kinshasa, donc c'est-à-dire on a collecté dans les eaux usées, et un second chez un enfant, c'était au Congo central. C'est quand même des avancées majeures. Mais le poliovirus variant circule encore. Et quand il y a des poches insuffisamment vaccinées, fort malheureusement, ces enfants sont atteints, le virus se développe et le virus paralyse les enfants. Donc nous avons des efforts communs à faire. Vacciner un enfant avec une bonne immunité protège aussi les autres enfants.
Docteur Mukamba Musenga Elisabeth, nous vous remercions.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.